écoutez Résonance sur les ondes d'Univers 99.9. Pour cette édition, vous allez écouter un entretien réalisé à Entrain par Wally. Bonjour Wally.
Bonjour.
Alors Wally, est-ce que tu peux nous présenter cet entretien ? Quel est le sujet et avec qui ?
Oui, donc pour cette édition, nous sommes allés à la Maison des Patrimoines d'Entrain rencontrer M. Haribar. C'est le président de l'association Les Amis du Château de la Roche.
D'accord.
En 2018, cette association a déposé une candidature auprès de la Fondation du Patrimoine pour bénéficier du Fonds de soutien Berne, financé par le Loto du Patrimoine et organisé par la Française des Jeux. C'est un fonds de soutien spécial qui vise à permettre la réhabilitation de sites et de monuments départementaux.
D'accord. Et justement, qu'est-ce que ça avait donné à ce moment-là, en 2018 ?
Donc, cette même année, la candidature avait été retenue et le château Montbourcher à Cugin avait été sélectionné parmi quelques 200 sites en France. Et c'était vu allouer un budget pour sa réhabilitation.
Et donc, c'est pour cela que tu es allé interviewer justement Haribar.
Oui, c'est ça. Donc, nous sommes allés interviewer M. Haribar pour qu'il nous parle de l'association du château en tant que telle et de l'avancée du projet.
Eh bien, très bien. On va écouter tout de suite cet entretien que tu as mené avec Eric Haribar. Vous écoutez Résonance sur les ondes d'Univers 99.9.
Nous sommes en train avec Monsieur Haribar. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Donc, je m'appelle Eric Haribar, je suis président de l'association des Amis du Château de la Roche. J'habite le Pays Bazougeais, et dans le Pays Bazougeais, on a Cugin, parce que historiquement, Cugin est dans le Pays Bazougeais. Donc voilà pourquoi un petit peu le Château de la Roche. Et puis, je suis passionné bénévolement par le patrimoine depuis de très nombreuses années, que ce soit sur le territoire ici ou au niveau régional.
Pourquoi avez-vous créé cette association, les Amis du Château de la Roche ?
Alors, pourquoi avoir créé cette association-là ? En fait, c'est un lieu que je connais depuis tout petit sur le territoire. J'habitais Combourg à l'époque et donc, comme beaucoup d'enfants de la région de Combourg, de Cugin, on venait jouer ici, on venait se balader sur ce site un petit peu à l'écart de pas mal d'habitations. Et puis, de fil en aiguille, en fait... Je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose à faire pour garder les ruines de château en état, pour éviter qu'elles ne tombent et puis qu'on oublie, que ce soit démantelé et les pierres partir ailleurs. Donc voilà, donc il y a deux ans, ça va faire maintenant 3 ans et demi en fait, on a inscrit, nous l'association ici, l'association APAC, qui est une autre association que je m'occupe, a inscrit à la mission Berne, la première mission de Stéphane Berne sur le sauvetage du patrimoine, le château de la Roche, au dernier moment, à la dernière minute, on a inscrit, puis on ne se faisait pas trop d'illusions, on avait inscrit une quinzaine de sites qui valaient le coup d'être rénovés, mis en valeur, etc. Et puis, à notre grande surprise, en fait, on pensait que ça aurait été le château de Landal, parce qu'il était inscrit aussi, qui est un peu plus loin, Broilan. Mais du coup, c'était le château de la Roche qui a été retenu par la mission Berne pour représenter, il fallait six sites sur l'Ille-et-Vilaine. Et donc, au nord Ille-et-Vilaine, on a été le site retenu. Et voilà, on s'est dit, s'il est retenu, maintenant, il va falloir y travailler pour valoriser ce site, sachant que dès le début, l'objectif, ce n'est pas d'en faire un lieu touristique, d'en faire un lieu où on restaure tout, c'est d'éviter que les ruines ne tombent et puis qu'on les oublie, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, on a créé cette association-là avec Michel Évrard, qui était un agent de... directeur de Bretagne Romantique, on a créé cette association-là pour pouvoir se dire mettons-nous au service des collectivités, des gens qui sont intéressés pour pouvoir avancer sur la valorisation de ce site et puis essayer d'avoir des adhérents aussi qui sont intéressés comme nous par le patrimoine, par l'histoire et par le milieu naturel aussi, puisque c'est un site naturel exceptionnel. Donc voilà pourquoi un petit peu l'association a été créée. Il y a eu un engouement au tout début quand on a créé, en 2018, juin 2018. Beaucoup de gens on connaissait déjà le château quand on a fait une réunion publique de constitution de l'association avec la mairie, monsieur Chartier à l'époque, avec pas mal de partenaires. On a eu la DRAC aussi qui est venue, Henri Masson qui était le conservateur régional, un architecte du patrimoine. Voilà, on avait pas mal de gens qui étaient très intéressés du fait que c'était retenu par la mission Berne. Donc voilà, il y avait une vingtaine de 20 personnes adhérentes au tout début. Et voilà, des gens passionnés, des gens qui avaient envie de donner un coup de main aussi, s'il y avait du débroussaillage, etc., qui étaient prêts à participer à ce projet. Et en fait, voilà, pendant 2 ans, on a activé un petit peu tout ce qu'on pouvait activer pour faire avancer le dossier, parce qu'il fallait un porteur de projet, ce qu'on appelle un maître d'ouvrage. Et donc, le propriétaire, puisque c'est un lieu privé toujours, le propriétaire, étant âgé, maintenant décédé en 2021, ne souhaitait pas, lui, s'occuper des travaux. Par contre, il nous soutenait complètement dans le sens où, voilà, si on pouvait, en fait, entre guillemets, parler en son nom auprès des collectivités, puisque lui, de tout temps, il a toujours voulu que ce site soit mis en valeur... pour le compte d'une collectivité, il était prêt à le céder, voilà, pour dans le cadre d'un bail emphytéotique. Je vais y revenir après. Et en fait, ben voilà, on avait le propriétaire qui nous soutenait, voilà, des habitants, donc une bonne vingtaine d'adhérents. Et puis pendant 2 ans, on n'a pas réussi vraiment à faire avancer les choses. Donc ce qui fait que ben on n'a pas forcément refait d'appel à cotisation pour conserver les adhérents. On a tenu à informer les adhérents depuis 2020, en fait, un peu avant le Covid, des démarches qu'on pouvait faire. Et puis voilà, on peut dire aujourd'hui il y a une petite dizaine d'adhérents, mais on attend justement de pouvoir, ça c'est dans les projets dans les mois qui viennent, de pouvoir relancer cette association. Hein, du coup, de nouveau, de retrouver des adhérents, faire en sorte que ceux qui ont adhéré réadhèrent, et puis trouver des nouvelles personnes, puisque là, on a franchi une étape en 2021. Donc voilà, l'idée, c'est... voilà. Mais en gros, ouais, aujourd'hui, une dizaine d'adhérents, un petit peu, sans rien faire, en fait, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas vraiment d'activité, mis à part du démarchage téléphonique et des entretiens et des rencontres avec des partenaires potentiels.
Est-ce que vous pouvez nous raconter très rapidement l'histoire du château ?
Alors, le château, en la Bretagne, en fait, on a ce qu'on appelle les marches de Bretagne. Donc là, on se situe un petit peu aux marches de Bretagne, c'est-à-dire que c'est une ligne qui va du Mont-Saint-Michel jusqu'en Loire-Atlantique. Et tout au long de cette ligne, on avait d'un côté des châteaux qui étaient plutôt des châteaux bretons, et de l'autre côté, des châteaux plutôt qui représentaient le royaume de France. Et donc, c'est ça qu'on appelait les marches de Bretagne. Et dans les châteaux importants qui défendaient la Bretagne, on avait Fougères, on avait Vitré, on avait Châteaubriand. Donc voilà, des gros châteaux qui étaient toujours aux avant-postes quand il se passait, quand ça bougeait, quand il fallait défendre, quand il fallait attaquer. Voilà, donc ça, c'était des gros châteaux qui défendaient la Bretagne, hein, enfin toute cette ligne des marches de Bretagne. Mais en second plan, ce qu'on appelle des châteaux de deuxième zone, un petit peu des châteaux secondaires, c'est des petits châteaux comme Landal, La Roche-Montbourcher en est un, il y avait Aubigné, il y avait Saint-Aubin-du-Cormier a un rôle plus important, mais tout au long de cette ligne-là, on a des châteaux un petit peu secondaires qui ont été construits par des seigneurs locaux et qui, au cas où, pouvaient servir de repli ou pouvaient rentrer un peu dans les conflits qu'il pouvait y avoir. Donc je pense qu'il a été édifié un petit peu pour ça. Et en fait, entre le moment, la caractéristique de ce château, c'est qu'entre le moment donc 13e, en fait, fin 13e, c'est pas très précis la construction du château. On a des éléments sur l'histoire du château, mais sur la construction, c'est un peu vague. 13e, 14e, en fait, entre le moment où il a été construit, édifié et démoli, il a vécu à peine 250 ans, en fait. Il a été démantelé et puis oublié. Et bon, voilà, il a été occupé. Alors, la caractéristique aussi de ce château, c'est qu'il n'était pas simplement défensif. Il était vraiment, c'était un, un, un château qui était habité, puisque quand on visite les ruines, que ce soit la tour carrée, ce qu'on peut appeler le donjon éventuellement, ou la tour ronde, on voit à l'intérieur des cheminées, mais vraiment d'un bel ouvrage. C'est ça qui fait un peu l'aspect typique de ce site. C'est vraiment un travail de la pierre exceptionnel. Et voilà, donc c'était un château qui était quand même habité. Donc on a eu la famille de Lépine, on a eu la famille de Montbourcher. Ensuite, je ne vais pas citer, je ne les ai pas forcément en mémoire en plus, toutes les familles qui ont pu habiter là par héritage, en fait, comme beaucoup dans l'histoire de France. Enfin, on voit que les petits fiefs comme ça passent de famille en famille en fonction des mariages qui sont établis. Donc voilà, donc ce château n'a... On n'a pas de traces vraiment de conflits sur le site. Je pense qu'il y en a eu peut-être un petit peu au moment des guerres de religion, un petit peu, enfin de la Ligue, les guerres de la Ligue, un petit peu peut-être. Voilà, il y a peut-être des conflits peut-être aussi avec les Anglais. Mais là, sur l'aspect-là, purement historique, qu'est-ce qui s'est passé sur ce château-là ? C'est là où on a le moins de choses. Après, on a des éléments historiques sur les passations, sur des descriptifs, sur des occupations, voilà, appartenait à telle famille, de telle époque à telle époque, et puis voilà. Mais aujourd'hui, on peut dire que la famille de Montbourcher est en fait... il y a encore des descendants, d'ailleurs, à Entrain, la famille Rohan-Chabot, qui possède le château de Bonnefontaine ici, a des souches dans la famille Montbourcher. Quand on va Place des Lys à Rennes, sur une des vieilles maisons... Du Moyen-Âge, à Colombage, là, on voit encore les armoiries de la famille de Montbourcher, qui sont trois soupières sur un écusson, avec un blason qui dit « Point trop d'amis quand elles sont pleines », en parlant des marmites. Donc voilà, donc c'est une souche des familles bretonnes importantes de l'époque, en fait, et puis voilà, de fil en aiguille, c'est passé à d'autres familles, et puis ça a atterri dans une famille jusqu'aux propriétaires d'aujourd'hui, qui sont la famille de Séguin. Mais de fil en aiguille, voilà, c'est resté un peu dans les mêmes familles, même s'il y a eu des histoires de vente, c'est quand même resté dans la famille depuis pas mal de plusieurs centaines d'années, en fait. Hein, on n'a pas remonté tout l'historique, mais bon, voilà, je pense que c'est un travail qu'il faudra qu'il soit fait. Mais voilà, entre autres, cette histoire. Voilà, ce qu'il faut retenir un petit peu, c'est voilà, une période assez courte, puisque quand il a été démantelé, jamais il a été reconstruit. Peut-être qu'il a été incendié, c'est possible. Il y avait un logis entre le donjon et la tour ronde. Voilà, on sait qu'il y a des choses sous terre. Il n'y a jamais eu de recherche archéologique précise. Hein, il y a un gros travail à faire d'études là-dessus. Ça aussi, ça fait partie des projets. Mais voilà, on n'a pas... Voilà, ça nous permettra de faire parler un petit peu le château et ça nous obligera aussi à aller dans des archives où on n'est pas encore allé forcément pour en savoir plus.
Est-ce que vous pouvez me décrire le site ?
Le château se situe sur la route de Cugin en allant vers Saint-Léger. Donc on a le village du Plessis, je crois, où il y a déjà des étangs. Hein, il y a une rivière, un ruisseau qui coule ici, qui alimente un ou deux étangs au Plessis. Et ensuite, on a un moulin ou deux, je crois, qui ont existé avant d'arriver au château de la Roche. Et le château de la Roche, il est situé dans une vallée qui fait plusieurs dizaines d'hectares, si on tient toute la vallée boisée, avec donc une rivière qui coupe la vallée en deux, où on a d'un côté, on a les ruines du château, donc côté Cugin, hein, côté pays de Combourg, en fait, hein, des ruines où donc on a un donjon, une tour carrée assez rare sur la Bretagne, en fait, hein, des murs très épais, comme je disais tout à l'heure, avec un ouvrage de cheminée bien, bien travaillé. On a une tour ronde un petit peu plus loin, et entre les deux, on avait un logis qui devait être en bois, couvert peut-être en tuiles, parce qu'on retrouve des morceaux de tuiles. Et plus tard, je pense qu'il y a eu une chapelle. Mais là, on est sur un site, en fait. Le château, peut-être qu'il y avait quelque chose avant, puisque c'est un peu la structure d'une mode féodale. Et donc, les modes féodales étant un peu à l'origine de pas mal de châteaux forts aujourd'hui. Hein, donc, on a en fait des fossés qui bordent la rivière avec des promontoires circulaires. Hein, donc, ça veut dire, c'est des élévations en terre et puis des talus. Et de chaque côté du talus, on a des fossés, surtout à droite, en fait. Alors, est-ce qu'il y avait des palissades en bois à l'époque, avant, ou même quand le château a été construit, est-ce que tout ça c'était entouré d'une palissade défensive? Sans doute que oui. Là, il faudrait pouvoir faire des recherches, je pense qu'on trouverait quelque chose. Donc voilà, cette vallée, elle se prolonge sur plus de 1,5 km, voire 2 km. Et un peu plus bas, on a un ancien moulin qui a fonctionné jusque dans les années 1870, je crois qu'il fonctionnait encore, en fait. Hein. Les derniers écrits qu'on a qui parlent de la vallée de la Roche sont les écrits qui parlent d'une activité au moulin. Hein, donc il est en ruine aujourd'hui. Et un peu plus loin, on a une ancienne métairie qui est aussi en ruine, qui est sous la broussaille. Il reste des quelques fondations, etc. Voilà, donc sur presque 2 km en longueur. Et le site actuel, en fait, dont on s'occupe au niveau de l'association avec la mairie et d'autres partenaires, c'est plutôt la partie droite en descendant la rivière, en fait. L'autre partie boisée qui fait partie de la vallée est privée. Et c'est plutôt un domaine de chasse. Mais c'est vrai que la frontière, en fait, hein, on est sur Noyal de l'autre côté de la rivière, en fait. On est sur le Pays de Fougères et le Pays de Saint-Malo, ici. Donc voilà, donc c'est un peu... Voilà, donc je pense qu'il n'a pas été fait par hasard ici, même s'il est très encaissé. Hein, c'est, pour y aller, c'est vrai que c'est assez loin de la route Cugin-Saint-Léger. Et faut faire plus d'un kilomètre pour descendre et voir les ruines et puis pénétrer dans cette vallée qui s'en va avec la rivière vers la Tamoute. La Tamoute qui est un affluent du Couesnon, qui se jette à Bazouges dans le Couesnon et qui va vers donc le Mont-Saint-Michel après. Donc voilà, mais le site, je pense qu'il a, c'est pas par hasard, je pense que il faudrait étudier les cartes des seigneuries, pourquoi il a été établi ici. Hein, mais voilà, c'est un site naturel assez bien préservé, puisque tout à l'heure je disais qu'il a vécu 200-250 ans, et puis il s'est rien passé d'autre, sans doute qu'on est venu chercher des pierres comme dans plein d'endroits. Hein, il y a des maisons qui sont un peu plus haut dans les villages sur la route de Saint-Léger. Il y a deux petites maisons. Là, on est quasiment assuré que c'est deux maisons qui ont été construites avec les pierres du château. Mais voilà, il n'y a pas eu d'essai de reconstruction. Donc, ce qui fait que tout l'environnement, les arbres, les plantes, tout ça, c'est resté dans son état naturel. Mis à part quelques chasseurs qui passent par là, des promeneurs, il n'y a jamais eu d'aménagement. Et s'il n'y a jamais eu d'aménagement, c'est parce qu'on est sur un sol très granitique. Hein, ce que je n'ai pas dit, mais c'est qu'il y a des grandes chances que toute la pierre du château a été extraite sur place. On a l'emplacement à quelques mètres du château d'une carrière. Là aussi, il faudrait nettoyer pour voir dessous. Et puis en surface, dans les champs, à côté de la ferme en ruine qui est à côté, on a des blocs de granit qui affleurent les prairies. Et on voit encore, quand on regarde bien, des trous qui permettait d'extraire et de fendre le granit. Donc voilà, donc c'est ce qui a un peu sauvé la ruine. Si elle est là aujourd'hui, c'est parce que c'était à la fois isolé, encaissé dans une vallée et sur un sol granitique qui ne pouvait pas être labouré. Sinon aujourd'hui, ce serait des champs de maïs, je pense. Donc voilà, donc c'est un site naturel exceptionnel dans le sens où... comme je disais, ça n'a pas bougé, quoi. La végétation, elle est là, elle n'a pas été ramenée. Et voilà, donc c'est pas envahi non plus, c'est pas une jungle, mais voilà, il y a des espèces de fougères, je crois, qui sont intéressantes. Et d'ailleurs, il y a un gros travail qui va se faire là-dessus pour valoriser le site. C'est d'abord valoriser le site, mais sans vraiment le dénaturer, quoi. Sans faire des aménagements à tire-larigot pour dire on va ouvrir. L'idée, c'est vraiment de conserver un site naturel exceptionnel, même s'il y en a plein par ici. Hein, et c'est pour ça qu'on est en partenariat, notamment avec le département d'Ille-et-Vilaine, dans le cadre des espaces naturels sensibles. Ils sont très intéressés pour s'en occuper, en fait, avec la commune, parce que la commune, c'est une petite commune qui n'a pas forcément beaucoup de moyens pour s'occuper de tout ça. Donc voilà, donc on s'appuie aussi sur les partenaires qui sont prêts aussi à partir avec nous, quoi.
Et comment se fait la rénovation du château ?
Le propriétaire étant décédé, était très attaché à ce que ce site soit perdure dans la famille. Donc du coup, on avait avec lui engagé donc des démarches pour signer un bail emphytéotique de plusieurs dizaines d'années. En fait, un bail emphytéotique, ça permet au propriétaire de rester le propriétaire sur le papier, mais du coup de donner en fait des droits aux locataires qui sont quasiment les mêmes qu'un propriétaire. C'est-à-dire que le locataire peut aménager, il n'a pas le droit de laisser dépérir le site. S'il l'améliore, voilà, c'est tout bénef pour le propriétaire s'il récupère dans 30 ans. Là, je crois que c'est 60 et quelques années, le bail emphytéotique, il me semble, je ne sais plus trop. Enfin bref, ça laisse un certain nombre d'années pour s'en occuper et le valoriser. Et au bout des 60, soit c'est renouvelé, soit c'est récupéré par le propriétaire, mais du coup, sans somme perçue ni rien, si le site est sauvé, mis en valeur, et voilà, donc ça reste comme ça, et le propriétaire, il récupère comme ça, quoi, en fait. Donc voilà, donc du coup, ça, c'est le projet. Donc ça, on a franchi le cap avec les héritiers de M. De Séguin, qui nous avait soutenus pendant des années sur la création de l'association et voilà, qui se tenait beaucoup au courant de toutes les avancées qu'on pouvait avoir. Et du coup, avec ces deux enfants, on a pu signer un bail emphytéotique au mois de septembre, octobre, je ne sais plus précisément. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, la commune de Cuguin est signataire de ce bail et donc du coup a pouvoir pour agir sur cette vallée. Elle l'a fait parce que du coup, nous, on est aussi à ses côtés pour valoriser. Nous, on connaît, enfin moi, je connais du coup pas mal le circuit, un petit peu tout le réseau au niveau valorisation du patrimoine, etc. La DRAC, la région Bretagne, pour pouvoir trouver aussi des financements en complément de la mission Berne, parce que la mission Berne, elle a identifié des fonds pour cristalliser en fait le château. Ce qu'on appelle cristalliser le château, c'est dévégétaliser, enlever les arbres qui sont sur les épaisseurs du donjon, par exemple. Il y a des arbres qui poussent, il y a de la terre, il y a des pierres qui tombent pas, mais qui voilà, qui pourraient tomber. Et donc cristalliser, c'est tout nettoyer, décaper et faire un enduit vraiment étanche pour que ça prenne plus le gel, ni la pluie et ni les graines que les oiseaux transportent et qui font pousser. Voilà, le cristalliser, c'est le garder dans l'état où il est aujourd'hui. Mais ça coûte quand même cher. Ça peut coûter... on a un gros devis... un devis, c'est une estimation des architectes du patrimoine. Ça peut aller jusqu'à 400 000 euros. Mais l'idée, c'est de faire une première petite tranche pour sécuriser les ruines. Parce qu'on n'est pas à l'abri que la tour ronde, qui est un peu avec une partie en surplomb, du jour au lendemain, c'est pas parce qu'elle a pas bougé depuis 30 ans, du jour au lendemain, elle peut tomber d'un seul coup, quoi, en fait. Donc voilà, l'idée, c'est de sécuriser, c'est d'avoir une première tranche de travaux. Et donc, le fait que la mairie soit signataire de ce bail emphytéotique, elle peut déléguer soit un maître d'ouvrage, qui peut être la Comcom, soit le département, soit notre association. Mais nous, on est un peu jeunes et puis on n'a pas de sous. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un maître d'ouvrage qui active. Et du coup, les fonds de la mission Berne, les sous qui étaient consacrés pour valoriser ce château, vont arriver. La région va pouvoir donner, le département... on espère la communauté de communes et puis la commune de Cuguin selon ses moyens, puisque c'est une petite commune. Donc voilà.
Est-ce que vous travaillez avec des chercheurs ou des scientifiques ?
Donc là-dessus, sur nous, on ne veut pas faire n'importe quoi non plus. On n'est pas des spécialistes non plus de la valorisation du patrimoine. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est passionné qu'on connaît déjà. Moi, je ne suis pas un historien, je m'intéresse à l'histoire. Moi, j'ai découvert les... Je suis passionné par les châteaux du Moyen-Âge, mais voilà, c'est plus parce que, historiquement, quand j'étais jeune, j'encadrais des chantiers de jeunes bénévoles internationaux sur des châteaux, des choses comme ça. Donc voilà, c'est ma passion vient un peu de là. Mais là, l'idée, c'est de toute façon, c'est de s'entourer effectivement d'historiens. Donc c'est de faire appel aux gens qui ont déjà travaillé dessus. Jérôme Cucarul, qui est un historien, qui nous a fait déjà des journées portes ouvertes sur ce château en 2013, hein. A fait une étude historique et un relevé assez précis, hein, qu'on utilise un peu aujourd'hui. Christophe Amiot, qui est un architecte du patrimoine au niveau national, qui habite pas très loin d'ici et qui est passionné par cet endroit, lui, effectivement, il nous rejoint dans le sens où il n'a pas envie que ce château non plus attire trop les foules. L'idée, c'est vraiment de maintenir la ruine dans son écrin de verdure. Voilà, donc déjà, ces deux personnes-là sont des gens avec qui on a déjà été en contact, qui sont déjà venus, on a déjà un peu travaillé. Mais voilà, là, on passe à une phase un petit peu autre du fait de la signature de ce bail. Et du coup, oui, effectivement, il faut qu'on s'entoure on va être obligé de toute façon de... Comme il est inscrit au monument historique, hein, c'était une mesure de protection. Hein, il n'est pas classé monument historique, hein, parce que ce n'est pas d'intérêt... classement un monument historique, c'est souvent un intérêt national. Inscrit à l'inventaire supplémentaire, c'est souvent des éléments secondaires qui font qu'il faut s'y intéresser, il ne faut pas négliger. Donc voilà, donc on est obligé de s'adresser aux affaires culturelles. Hein, c'est un service de l'État qui s'appelle la DRAC, qui est à Rennes. Donc là, même pour couper un arbre, M. De Séguin, quand il avait des arbres à couper parce qu'ils étaient vieux ou ils menaçaient de tomber, il était obligé d'avoir l'autorisation des affaires culturelles. Donc voilà, nous, on va pas pouvoir se couper. De toute façon, c'est pas le but des gens au niveau histoire qu'on fait des relevés et des services de l'État qui sont là pour être vigilants par rapport à ce qui sera fait. Rien ne sera fait sans leur caution, quoi, en fait. Donc voilà, donc ça veut dire plusieurs partenaires autour d'une table, donc c'est pas simple à mener. Hein, mais voilà, donc du coup, oui, voilà, on peut l'appeler comité scientifique, mais oui, il y aura 3-4 personnes faciles qui vont nous aider à valoriser. Et j'ai pas parlé d'archéologie, mais avant de toucher à tout ça, il va falloir faire une étude archéologique. Et là, du coup, il va falloir trouver aussi peut-être des sous, parce qu'aujourd'hui, il y a des méthodes modernes pour lire un peu le paysage, au sol, au sous-sol, et puis... et faire des relevés en complément de ce qui a déjà été fait. Mais voilà, au niveau archéologie, il y a quand même du taf aussi à faire. Donc voilà, oui, il y aura un comité, il y aura des gens qu'on va aller consulter pour avancer dans le projet.
Donc comment vous contactez ?
L'étape suivante, ça va être cette réunion où on va essayer d'avoir des nouveaux adhérents. Et puis ben, le contact, c'est mon téléphone portable, donc 06 77 66 35 51. Donc voilà, donc c'est voilà, mais je pense qu'on va faire un affichage sur Cugain. Il y aura peut-être il y aura sûrement des petits communiqués dans les journaux avec en rappelant les contacts. Aujourd'hui, on recherche aussi des gens dans l'association pour pouvoir peut-être faire un mini site internet en lien avec la mairie aussi, hein, qu'il y ait des liens pour voilà. Mais pour l'instant, ça reste un lieu, ce qu'il faut préciser, ça reste un lieu privé interdit au public. En fait, tant que les travaux de sécurisation de la ruine ne sont pas engagés et terminés, on va pas pouvoir communiquer en fait pour dire venez voir le château. On va faire par contre, on va préparer une journée du patrimoine, soit les journées du patrimoine du mois de juin, qui sont le quatrième tous les ans, c'est le quatrième week-end de juin. Ça s'appelle les JPPM, les journées du patrimoine de pays et des moulins. Donc c'est des journées sur le petit patrimoine local. C'est un petit peu le pendant des journées européennes qui sont au mois de septembre, en fait. Et donc voilà, donc les gens peuvent contacter, donc je rappelle, au 06 77 66 35 51, s'ils veulent plus d'informations ou s'ils veulent la date un peu, qui n'est pas encore fixée, de cette première... Cette rencontre qui va relancer un petit peu le projet sur le site de la Roche-Montbourget.
Éric Haribard, merci pour cet entretien.
Voilà, c'était un entretien avec Éric Haribard, président de l'association des Amis du Château de la Roche autour du château de Cugain et du projet de sa mise en valeur patrimoniale. Un entretien mené et réalisé par Wally Goron. Merci beaucoup pour cet entretien. Un entretien que vous pourrez retrouver sur le site de la radio www.radio-univers.com à la rubrique Résonance. Vous écoutez Univers 99. 9.9.
I gotta get my hair, chest hair, some